L'évolution ne s'est pas faite toute seule. Il y a toujours eu ces fameux coups de pouce donnés au bon moment qui ont réorienté l'araignée pour lui apprendre à faire une toile ou le coucou pour l'inciter à nicher dans le nid des autres. Cependant, le dieu qui fut présent pour assurer la sécurité du mouvement n'a jamais pu prouver qu'il était réellement indispensable. En effet, il n'a jamais fait que soutenir, en ces moments difficiles, un processus autonome et indépendant qui aurait peut-être pu se passer de lui. C'est cette ambiguïté à la base qui condamne la science à errer éternellement, l'esprit des hommes à ne comprendre que partiellement le monde et la vie en général à ressentir de temps à autre cette impression désagréable de servir de support à une certaine mauvaise foi originelle. La sélection naturelle a opéré en trois temps. Dans un premier temps, les mâles les plus forts triomphaient des mâles les plus faibles et disposaient des femelles. Ainsi, il pérennisait les gènes du muscle, de la puissance et de la brutalité. Dans un deuxième temps, lorsqu'apparurent les singes, ce furent les mâles les plus réfléchis qui prirent le dessus. En effet, ils surformaient des alliances et éliminaient les costauds et autres quadrumanes à carrure. Ainsi, ce fut l'hérédité de la réflexion qui se propagea et permit à l'intelligence d'évoluer. Dans un troisième temps, arrive la société humaine. Dans notre société, quels sont les hommes les plus aptes à conquérir les femmes? Les conformistes. Pourquoi? Parce que plus on est ordinaire, plus on a de chances de rencontrer l'âme sœur. Quant aux autres, plus intelligents, ils sont hommes à la sensibilité heurtée ou poètes outragés dont la capacité d'agir est entravée par des problèmes métaphysiques, par la névrose de l'intellectuel ou la position extraterrestre du surdoué. Ainsi, c'est le patrimoine génétique du manque d'originalité qui se répand dans l'avenir. Et finalement, tout ceci obéit à la logique la plus élémentaire de l'évolution de la vie. La sélection naturelle, dans une première étape, en privilégiant la force, a consolidé les corps. Puis elle a, dans une deuxième étape, en choisissant l'intelligence, consolidé les cerveaux. Et elle a enfin, dans une troisième et ultime étape, en favorisant le conformisme, consolidé les sociétés. Monsieur Cro. Monsieur Cro vivait à l'époque préhistorique, cette époque où l'histoire de l'homme n'était pas celle de ses faits et gestes, mais celle de l'évolution de son corps et de son cerveau. Plutôt que de se vêtir de peau de bête, Monsieur Cro avait préféré s'engraisser et prendre de la puissance musculaire. Muscles et graisses lui apportaient force et chaleur, c'est-à-dire l'équivalent d'un père et d'une mère. Il se sentait intermédiaire entre le singe et quelque chose d'inconnu qu'il appelait Dieu, alors qu'il s'agissait du futur homme moderne. Il avait choisi, en refusant la marche à quatre pattes, d'exploiter au maximum ses membres arrière pour privilégier ses membres avant, appliquant le principe de toute société qui exploite la masse laborieuse pour libérer une élite qui peut alors découvrir l'esprit. L'évolution avait transformé petit à petit les mains de ses membres postérieurs en pieds, c'est-à-dire en mains calleuses et bourrues de travailleurs, et affiner les mains de ses membres antérieurs en délicats outils d'art et de culture. C'est grâce à la main que l'homme accéda à l'intelligence, alors que curieusement, c'est le pied qui le différencia du singe. D'ailleurs, du temps où il était singe, M. Cro avait quatre mains. En devenant homme préhistorique, il n'en eut plus que deux. Maintenant qu'il était devenu homme presque historique, il était droitier et ne savait rien faire de sa main gauche, il n'avait plus qu'une main. Et il regardait avec inquiétude le rétrécissement du petit doigt et de l'annulaire, ramenant la main efficace à une pince à trois doigts. C'est donc par l'astuce de cette perte que l'évolution put améliorer le corps du singe en le spécialisant. Cependant, M. Cro se doutait bien d'autre chose. En effet, comme les hommes de science actuelle commencent à le soupçonner, le bébé singe ressemble plus à l'homme qu'au singe. Comme l'homme, le bébé singe n'a pas de poils. Comme l'homme, le bébé singe a une grosse tête. Comme l'homme, le bébé singe a peu de muscles. Comme l'homme, le bébé singe s'étonne de tout. Comme l'homme, le bébé singe est vulnérable. L'homme n'est rien d'autre qu'un singe qui a refusé de grandir. Ainsi, par une autre perte, celle de l'âge adulte, le singe a pu continuer à se parfaire. Monsieur Cro n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour deviner l'homme moderne. Conçu sur le modèle du bébé préhistorique, il ne sera jamais adulte. Et il ne reste plus à Monsieur Cro pour prédire ses futures qualités, car regardez comment sont faits ses nourrissons. L'homme moderne sera bruyant, égoïste et insatiable.